I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer l'histoire d'Angelo Folé, qui est aujourd'hui plus connu pour son activité sur Instagram derrière le compte Balance Tapeur, mais qui a aussi moult cordes à son arc. Avant d'aller dans l'Instagram game, Angelo est avant tout réalisateur d'albums musicaux. Il a travaillé notamment avec Christine and the Queens, Grand Corps Malade, Giorgio, Eddie De Preto, Aloïs Sauvage et j'en passe. Plus récemment, Angelo est devenu thérapeute. Dans la lignée de son travail d'accouchement avec les artistes, il propose aujourd'hui à des particuliers de les accompagner dans leur vie. Comment Angelo en est arrivé là ? Il raconte tout ça dans cette interview où on va très vite très loin dans l'introspection. Un immense merci à lui pour la confiance accordée. J'espère que cet entretien vous parlera d'une manière ou d'une autre. En 2020, j'aimerais donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous enverrai un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr aussi mes épisodes de podcast. Quant à nous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préférée, venez mettre un commentaire sur www.histoire.com, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Angelo. Merci à vous pour votre écoute.
Très ouvert comme discussion, après on peut digresser. Enfin, tu vois, en fait, si ça dure un quart d'heure de plus, moi je m'en fous.
Ouais, d'accord.
J'ai pas de soucis.
Tu poses des questions, faut que je me rappelle de ma bio.
Je te pose plein de questions.
Ah, voilà, okay, cool.
Non, laisse-moi d'arriver le truc, tu vois. Donc on est avec Angelo Folé, salut.
Salut.
Ça va ?
Ouais, très bien.
Alors Angelo, qui est plus connu sur internet par le pseudo Balance Tapeur.
Oui.
Qui est un compte Instagram que tu as lancé il y a un an,
ouais,
c'est ça ?
Un peu plus d'un an. C'était en fin août, début septembre l'année dernière.
Et donc je t'avais proposé de parler un peu parce que j'avais vu à côté de ça que t'étais thérapeute aussi.
Ouais.
Je m'étais dit tiens, ça pourrait être cool de faire parler Angelo de comment il en est venu à créer ce compte.
Ouais.
Et en creusant un peu, je suis tombé sur une page Wikipédia.
T'as pas creusé beaucoup parce que je crois qu'elle arrive à...
J'ai pas creusé. Et en fait, j'ai juste tapé ton nom, ce que j'avais jamais fait jusque-là en fait, parce que je m'étais arrêté à Angelo. Enfin, j'ai pas mal regardé ce que tu faisais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ton métier en fait.
Non.
Le gars a composé et a réalisé des tas et des tas d'albums en fait que vous avez sans doute entendu dans vos oreilles quoi, tu vois. Et j'avais pas du tout cette dimension-là. Donc quand je suis tombé sur ta page Wikipédia, j'ai fait OK, très bien, ça donne toute autre dimension à l'interview, donc c'est encore mieux, je suis très content. Donc effectivement, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Quel âge t'as aujourd'hui, Angelo ?
34 ans.
Bravo, toutes mes félicitations.
Merci, je suis très content d'avoir 34 ans.
Ouais.
J'ai attendu longtemps...
D'avoir 34 ans.
Non mais tu sais, d'être adulte, je sais pas.
Ah oui.
Ouais, sauf qu'aujourd'hui je fais ma crise d'ado aussi en même temps, donc c'est cool. C'est un peu décalé.
Est-ce que t'as pas fait ta crise d'ado quand t'avais 15-16 ans, c'est ça ?
Je pense que je l'ai faite, mais pas autour de 15-16 ans, plus dans la vingtaine, vraiment.
Ok. Mmh.
C'était ça ta question ? Quel âge j'ai ?
Non, c'était juste pour que tu te présentes un petit peu.
Voilà, ah oui. J'ai 34 j'ai deux casquettes principales de métiers qui sont les deux sont dans l'accompagnement et dans l'aide, on va dire. Le premier, c'est directeur artistique. Je dis le premier parce que c'est le premier chronologiquement. Aujourd'hui, c'est celui qui est passé plus en deuxième. Et donc le deuxième qui est passé en premier, ça devient très compliqué d'un coup, c'est effectivement d'accompagner personne en thérapie. Donc ça passe soit par de la psychothérapie, soit par du coaching de groupe, des ateliers. Et dans les deux cas, effectivement, c'est pour moi de l'accompagnement et aider les personnes à exprimer qui ils sont, quoi, à mieux se connaître.
Ok. L'une des questions que j'aime bien poser à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Angelo quand il avait 7-8 ans ?
Ah, de ce qu'on m'a dit.
Tu te souviens plus ?
Je me souviens un peu, mais je pense que globalement, j'étais un enfant très discret. Je suis enfant unique aussi, donc j'ai aussi appris à m'occuper seul, beaucoup. Et j'étais plutôt timide. Jusque franchement j'ai dû passer au moins bien 25-27 ans à être vraiment timide, réservé. C'est vrai qu'aujourd'hui quand les personnes me rencontrent et que je leur dis bah, tu sais avant moi je n'osais pas parler aux gens alors que je suis hyper sociable aujourd'hui, voilà, ça, c'est un peu surprenant, mais ouais, timide, réservé, j'étais plutôt calme. Il paraît que ma mère me disait ouais, j'ai pas été un enfant trublion, à foutre le bordel. Par contre, effectivement, en classe, il paraît que j'étais souvent au fond et que j'aimais bien discuter. J'ai plutôt été toujours un bon élève. Puis c'est allé de plus en plus, c'est-à-dire qu'au début, je travaillais bien et puis après, je devenais toujours major. C'est vraiment l'enfant relou qui
ah oui,
qui bosse pas beaucoup, qui parle aux autres, qui fout un peu le bordel, mais gentiment. Mais qui a quand même des très bonnes notes. Donc voilà, ça se pense que c'était pour faire plaisir à ma maman, les notes.
C'est vrai.
Ouais.
T'étais un peu drivé vers une bonne... Enfin, comment dire, d'avoir des bons résultats, c'est ça ?
Ouais, ça a été un gros mantra de mon enfance.
Okay.
Il faut bien travailler. Il faut bien travailler, le travail c'est important... Quand je vois mon grand-père maternel, même encore aujourd'hui, à son âge, la première question qu'il me pose, c'est le travail. Voilà, j'imagine que c'est une génération pour qui le travail était important, et d'autant plus une famille d'immigrés où il fallait travailler pour pouvoir s'intégrer et puis trouver un foyer, un chez-soi. Voilà, je pense que c'est vraiment par habitude, par nécessité, par inquiétude que cette phrase est devenue vraiment un leitmotiv de mon enfance. Et puis, c'est marrant parce que ça a vachement bougé dans le sens où ma mère m'a vu m'épuiser au travail. J'ai toujours frôlé le burn-out, mais j'ai jamais été dedans. Et elle me voyait crever, quoi. Et elle me disait, mais maintenant, c'est mais repose-toi. Donc, elle a un nouveau mantra qui est repose-toi.
Arrive à
ça
un
me
certain
va bien.
Âge. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, on va revenir un peu après à ton enfance, mais tu disais que t'as jusque 26-27 ans, t'étais ouais, très timide et que d'un coup d'un seul t'as basculé.
Ouais.
T'as eu un déclic particulier par rapport à ça ?
Ouais, ça revient aussi à parler de l'enfance, la petite enfance, mais disons que j'étais à la fois timide, réservé. En même temps, j'ai toujours été dans des milieux assez créatifs, donc il y a toujours eu quand même la notion de faire quelque chose en public. Ça ne veut pas dire que j'étais à l'aise, mais je le faisais quand même. C'est-à-dire que je pouvais être chanteur lead de mon groupe de rock au lycée ou après, mais je fermais les yeux sur scène et je ne parlais pas entre les chansons. Tu vois, c'est très contradictoire parce que j'avais envie d'être là et pas du tout envie d'être là. Et j'ai été très colérique aussi à cette période. C'est-à-dire que... je pense que j'avais beaucoup de mal à gérer mes frustrations. J'avais beaucoup de mal à faire des choses avec les gens. J'ai toujours eu l'impression à cette époque-là de mieux faire seul qu'à plusieurs. Ce qui est aussi très contradictoire avec ce que je défends comme propos aujourd'hui. Et du coup, ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, j'ai un géniteur qui est donc mon père biologique et un père adoptif qui est très très vite devenu mon père papa de cœur. Et on s'est retrouvé en fait avec mon géniteur. C'est lui qui m'a retrouvé sur YouTube, enfin via Facebook, à 27, ouais, un truc comme ça.
Okay.
Et ça a tout changé. C'est-à-dire que j'avais plus de migraines, j'avais plus mal au bide, tous les maux que j'avais même fait plein d'examens pour le bide parce que j'avais, tu sais, ce qu'on appelle les reflux. J'avais ça en permanence, un truc hyper acide dans la trachée ou dans le conduit de digestion qui me bloquait. J'avais énormément de mal à manger. j'étais pas du tout à l'aise pour manger en public, manger avec d'autres gens. Voilà, je me souviens même à une époque, quand je bossais en agence, dans la vingtaine, devoir parfois aller m'enfermer dans les toilettes pour respirer, gérer ma crise d'angoisse, etc. Donc j'étais plein d'angoisse, plein de timidité. Voilà, je me souviens en vacances aussi, c'est ma cousine qui allait demander aux jeunes s'ils voulaient bien jouer avec moi, parce que j'osais pas aller les voir. Donc, je dirais que c'est presque l'inverse d'aujourd'hui. Et ce qui a vraiment basculé, c'est le jour où Facebook est arrivé. Ça a créé des connexions avec des personnes suggérées. Et il se trouve qu'une personne de ma famille a eu suggéré mon père biologique. Et du coup, ils se sont échangés. Et lui, apparemment, me cherchait depuis longtemps. Sauf qu'il ne connaissait pas mon nom de famille, puisque ma mère s'était mariée avec Monsieur Follet. Et du coup, il n'avait jamais eu l'idée. Enfin, il n'a jamais trouvé, quoi. Et je pense qu'à un bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Et puis là, en fait, on avait un groupe de rock à l'époque. Et du coup, on avait pas mal de petites vidéos sur YouTube avec les débuts des blogueuses, etc. Et là, il y a une des blogueuses que je n'avais pas vue depuis longtemps qui me dit « Je crois qu'il y a un message pour toi en commentaire sur une vieille vidéo qu'on a faite il y a 10 ans, à la limite, tu vois. » Il y a 8 ans, ou je ne sais plus.
Wow.
Et je regarde et c'est Arthur qui me dit « Hello, it's your dad ». Américain, et je savais que c'était lui, quoi. Enfin, donc après, on s'est ajouté sur Facebook, on a discuté, et puis on a décidé de se voir. Je suis allé aux États-Unis après pour aller le voir. Je voulais pas qu'il vienne en France.
Waouh!
Ouais, ça change pas mal de trucs.
Et ça a réglé tout.
Ça a réglé une grosse partie de mes questionnements. Ça a ouvert aussi un champ de questions énorme parce que du coup, ben, je me dis, ok, il me manque la moitié de moi-même, donc je vais aller voir. Tout ça, donc j'ai profité de la semaine aux États-Unis pour lui poser toutes les questions que j'avais à lui poser. Ce qui est toujours étonnant dans le fait de retrouver une partie de son histoire, c'est de voir que parfois les deux versions ne coïncident pas. Donc quand je demande à ma mère qu'est-ce qui s'est passé, quand je demande à mon père qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas du tout la même version. Donc c'était à moi de faire ma sauce en fait et de me dire avec quoi j'ai envie de repartir et... qu'est-ce que j'ai envie de me raconter, et en même temps bon, bah, c'est leur histoire, moi mon histoire elle est simple, je suis né à Puteaux en 85, il se trouve qu'il n'y a pas de père, il se trouve que je suis né à 7 mois prématuré, bon, qu'est-ce que j'en fais quoi. Et voilà, et après ça a ouvert d'autres questions dans mon arbre, et c'est comme ça que petit à petit je me suis mis à la psychogénéalogie en tant que thérapeute.
Waouh. Et tu penses aussi que cette vocation de thérapeute qui t'est venue plus tard vient aussi de cette rencontre-là, à ce moment-là ?
Bah, c'est à partir de ce moment-là, donc à 27, que j'ai vraiment été pris de passion pour la thérapie, pour l'esprit humain. En fait, ça me passionne depuis que je suis ado. Je fais un bac L pour être psy et au final j'ai fait des études d'art, mais c'est un sujet qui me passionne et je pense que j'apprendrai toute ma vie et que je me poserai des questions toute ma vie et il n'y a pas de problème avec ça. Et à ce moment-là, en fait, j'étais déjà en thérapie pour être accompagné sur mes questionnements justement identitaires, parce que au-delà d'être un enfant qui n'a pas eu de père à ce moment-là, tu cherches ton identité pendant 25-27 ans. Et en plus, on est immigré, donc il y a aussi double culture. Enfin, c'est la question de l'identité et de qui suis-je, dans quelle étagère, ça a été un long processus, quoi. Jusqu'à lâcher la question, en fait.
Ouais, ok. À quel âge tu t'es dit, ok, c'est bon, j'en peux plus?
Bah, ça, c'est après mes formations, après un peu le parcours thérapeutique que j'ai fait, j'ai compris que j'avais pas forcément besoin de savoir. Et que. Pour moi, la seule réponse valable, c'est je suis. Donc,
C'est fou comme parfois on cherche des réponses à des questions pendant toute une vie, en fait, et jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait cette question elle a pas forcément lieu d'être et que la réponse elle est toute simple. En fait.
Ouais. Mais oui, parce qu'elle est simple à partir du moment où je pense que t'es prêt à l'entendre, hein, parce que tout le temps où tu te poses cette question, c'est des vraies remises en question existentielles, quoi. Donc. L'être humain est fait comme ça, quoi.
Ok. Revenons à ton adolescence, si tu veux bien. Alors oui, il y a un truc dont je voulais te parler aussi, c'est tes parents, ils font quoi comme métier à l'époque quand tu dis qu'ils sont dans le milieu du... Alors, t'as dit de l'artistique, c'est ça ?
Alors oui, ma mère, du côté de ma mère, ils sont tous danseurs et danseuses. Et mon père adoptif, mon papa, et du coup, il est commercial dans du papier, dans la papeterie.
Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'amène vers la musique à ce moment-là ?
Eh ben, c'est le vrai point de départ, c'est à 5 ans où ma mère me met à l'école de musique municipale du petit village. Et donc, je suis en éveil musical. Et puis, une année après, tu dois choisir un instrument. J'ai choisi la guitare. Et voilà. Et en fait, je fais de la guitare depuis que j'ai 5 ans. Donc, ça va faire 30 ans. Putain, franchement, au bout de 30 ans, je pourrais avoir un meilleur niveau quand même. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Et puis, elle me dit, je me souviens vraiment de cette phrase, elle me dit peut-être que ça te servira un jour. Donc, putain d'intuition. Parce qu'en même temps, elle a pas du tout envie que j'ai une vie d'intermittent qui galère, d'artiste, enfin, tout le cliché de l'artiste qui gagne pas d'argent. Parce qu'elle-même a galéré en tant qu'artiste pour se trouver une stabilité. Et en même temps, c'est elle qui me met à la musique, c'est elle qui fait de la danse, et toute la famille de son côté est dans l'artistique et dans l'art du spectacle, à la scène, quoi. Donc moi, j'étais vraiment bercé par le costume, par des répètes à la maison, dans l'appart tout petit, par des tournées en bus, par les backstage de comment on prépare un spectacle 2-3 jours avant la date. Moi, j'étais bercé là-dedans, quoi. C'est vraiment mon univers c'est un univers dans lequel je me sens bien et je me sens vraiment beaucoup moins à l'aise sur scène, quoi.
Oui.
Ouais. Et c'est marrant parce que ça m'a quand même donné envie d'être sur scène, mine de rien. Faire de la guitare aussi. Donc j'avais un groupe.
Ça, plutôt à l'adolescence, c'est ça,
ouais,
tu disais ?
Ouais, 15, 16, 17, jusqu'à 22, et puis après ça a duré encore un peu quelques années, et puis on s'est rendu compte que c'était compliqué de mettre autant d'énergie, de pas gagner d'argent avec, de voir qu'il y avait autant de trucs pistonnés aussi dans le milieu, et que nous on connaissait personne, donc j'ai rajouté les gens un par un sur Facebook ou sur MySpace à l'époque, enfin tu vois, c'était... Et en fait, je voyais bien que j'étais aussi pas à l'aise sur scène, tu vois. Par contre, j'adorais composer au studio, chez moi, parce que j'avais pas de studio à l'époque. J'ai réalisé assez tard que, en fait, ce que j'aimais dans l'artistique, c'était dans les coulisses, comme j'ai été quand j'étais petit, quoi. Et pas devant. Et pourtant, ça s'est transformé pendant toute l'adolescence en croyance que être un artiste, c'est être sur scène. Sauf que, en fait, non, moi, j'aime bien être planqué dans mon studio à faire des trucs dans mon coin et être dans les backstage de tout ce qui s'y passe.
Mais tu montais quand même.
Je montais quand même parce qu'en fait, j'avais un projet très très égoïste de groupe où je disais toujours que si j'avais eu assez de mains, j'aurais fait ça tout seul. Ah. Sympa le mec. Donc d'où la colère dont je te parlais tout à l'heure.
L'enfant unique en même temps.
Oui, mais enfin ça justifie pas tout non plus.
Non, mais
effectivement, j'ai pas appris à partager. Ouais. J'ai pas appris à partager. Et puis surtout, en fait, je savais tellement ce que je voulais que c'était forcément plus lent quand quelqu'un d'autre le faisait, quoi. Tu vois, ou moins bien, ou pas exactement ça. Donc au-delà d'être enfant unique, colérique, j'étais perfectionniste et je le suis toujours. Donc c'est vrai que j'ai plutôt un comportement et un filtre, si tu veux, du monde, où je vais plutôt voir ce qui va pas et plutôt voir ce qui manque, ce qui est génial parce que du coup en thérapie c'est super utile parce qu'on va te dire quelque chose et toi tu vas écouter en creux ce qu'on ne te dit pas, mais c'est chiant dans mes relations intimes, quoi.
T'es un peu jusqu'au boutiste, c'est ça?
Ouais, en tout cas j'ai un certain sens de l'équilibre, de l'harmonie, en fait, des choses. Et pour moi, harmonieux, ça ne veut pas forcément dire parfait, ça ne veut pas forcément dire tout est bien, mais j'ai une vraie intuition de qu'est-ce qui est juste ou pas, dans la forme. Donc j'arrive assez facilement à voir quand tu es quelqu'un qui est effectivement pas bien, pas très à l'aise ou quoi, enfin... Mais voilà, et du coup, je montais quand même sur scène et j'ai fini quand même par lâcher la scène pour petit à petit aller en studio et monter mon studio. Etc.
T'as un déclic ? à un moment donné qui te fait dire ok, faut que j'arrête ou...
Le déclic n'est pas venu de moi, le déclic est venu des autres musiciens qui, eux, commençaient juste... Moi, j'ai toujours eu un boulot hyper plutôt stable à côté. Et
Tu bossais en agence de pub, c'est ça ?
Ouais, j'étais concepteur-rédacteur. Et donc, notamment, le guitariste qui... je crois qu'il était veilleur de nuit à l'époque, donc c'était hyper crevant pour lui d'être veilleur de nuit, de faire les répètes juste avant, machin. Enfin, c'était pas une vie confortable pour lui, en tout cas. Et... De ce fait, il a commencé un peu à chercher d'autres voies. Donc, il s'est remis un peu à son chemin, au chemin professionnel, familial qu'il avait. C'est-à-dire, il conceptualise des cuisines, enfin, ils font de l'archi d'intérieur, etc. Du coup, il est allé dans cette branche. Puis finalement, il a aussi rencontré quelqu'un. Puis finalement, ils ont eu un enfant. Et puis finalement, ils sont partis à Lyon. Là d'où il vient, en fait. Il est revenu à sa base. Chez lui, dans ce que son oncle fait depuis des années, etc. Voilà, pareil pour le batteur, qui a plutôt fait de l'ingé son après, qui continue à le faire. Et puis Agnès, la claviériste, est toujours claviériste. Elle est toujours, elle joue plus que jamais dans d'autres projets, quoi.
Ok. Donc toi, tu décides, donc t'as quel âge ? T'as 22-23, c'est ça, tu dis ?
22-23, on était encore dans le groupe. Je pense que j'avais... je pense que c'était juste avant le retrouvaille du père, du Jan Hinter. Ça devait être vers 25-26, un truc comme ça.
Ok. Ouais. Et donc tu décides de te lancer,
et donc,
de créer ton studio, c'est ça, tu dis ?
Non, c'est pas venu comme ça, c'est-à-dire que j'ai... Je bossais en agence et puis je me rendais compte que je mettais beaucoup, beaucoup de ma créativité au service de choses commerciales et de marques de yaourts et de biscuits et de voitures. Voilà, bon, ça a fait sens pour moi un certain temps et puis au final je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous ? Et pile à ce moment-là, je tombe nez à nez avec deux DA, enfin deux boss d'un label que j'adore. Le label qui avait à l'époque Woodkid et là où je suis aujourd'hui, c'est ça qui est énorme. Donc Pierre était aussi un des labels.
Pierre qui est ton manager aujourd'hui.
Alors Pierre, non, ça c'est Timothée, mon manager. Pardon, ouais. Pierre, c'est l'homme qu'on a croisé juste après, tu sais. Et lui, c'était le DA de Green United Music.
Ok.
Voilà, qui était le label. Et donc je tombe sur moi les deux boss de Green United Music que je connaissais parce que je connaissais une des artistes qui était managée là-bas. Et je leur dis, mais faites quoi les gars ? Ils me disent, on vient prendre un brief. Je dis, un brief ? Ils me disent, ouais, un brief musique. Je dis, un brief musique, pourquoi ? Ils me disent, on fait aussi beaucoup de musique à l'image maintenant, musique de film, musique de pub, musique pour les marques, etc. Je dis, putain, mais c'est ça la transition. En fait. Je vais continuer à être dans le milieu parce que je le connais très bien, mais je vais faire ce que je sais faire, quoi, et ce que j'aime faire. Du coup, j'ai lâché mon CDI, je suis parti là-bas. J'ai bouffé des pâtes pendant un an.
Oui, c'est ça. J'allais dire, tu vas trop vite, quoi. Tu décides de lâcher ton CDI comme ça.
Ouais. Je sentais que ça allait plus. Pour le coup, j'ai pas
eu peur.
J'ai rarement eu des moments de bug. Ça a toujours été hyper.
Hyper fluide, quoi.
Ouais, hyper fluide. En fait, la peur m'a jamais empêché de. C'est-à-dire que ça veut pas dire que j'ai pas peur, mais. Et du coup, j'y suis allé, j'ai bouffé des pâtes pendant un an, mais on m'a construit une intermittence. Mon tout premier taf, c'était un taf de stagiaire. Je renommais les morceaux iTunes. C'est-à-dire qu'on reçoit plein de morceaux qu'on va mettre à l'image, et ces morceaux, souvent, ils ont des noms bidons ou machin. Et en fait, pour commencer à créer la librairie musicale et qu'elle ait un sens, du coup, fallait trouver des noms qui évoquent un peu ce sur quoi ça pourrait être potentiellement placé, tu vois. Qu'est-ce qu'évoque le morceau, etc. Et puis je faisais les tags aussi, tu vois. Donc,
ouais.
Super, super intéressant. Et voilà, et finalement, ils ont vite vu que j'avais d'autres compétences, donc j'ai commencé à faire la com, parce que j'étais bon en com, du coup. Donc ils n'avaient pas de site pour ça, on a monté un site.
Donc là, pour le coup, au départ, t'es pas du tout dans l'aspect artistique.
Pas du tout.
Okay.
Mais c'était un compromis. Je me suis dit, ok, au moins je suis dans un studio. Je fais pas de musique, mais je suis dans un studio. Et puis, ils ont vu que j'avais un avis quand même assez tranché sur la direction artistique de certains projets. Sur, je donnais mon avis alors qu'on me le demandait pas. Mais
c'est hyper important, ça, comme conseil. C'est-à-dire qu'en fait, t'as foutu un pied dans la porte.
Bah, ouais.
Mais t'as pas fait que juste foutre un pied dans la porte et te poser ton cul là en te disant on va attendre que ça se passe et que ouais. un jour l'opportunité arrive. Tu l'as déclenché aussi.
Ouais, c'est ça. C'est
tu m'as mis un peu ta fraise, quoi.
Ouais. Bah, je les voyais en séance en studio et puis je passais une oreille parce qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément un truc à faire. Puis j'écoutais, j'étais au fond et puis ils me voyaient et puis. Si je peux me permettre, là, en fait, ce serait cool de mettre plus de reverb ou plus de machin ou plus de trucs ou de mettre le pont avant le refrain parce que ça créerait de la dynamique. Puis il se trouve qu'au bout d'un moment, en fait, ils ont compris que j'avais un vrai regard de DA, en fait. Et du coup, en fait, après, je me suis, en 4 ans, à la fin, je suis devenu directeur de la création musicale là-bas. Ce qui m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes, de me faire un réseau et puis surtout d'être très très aguerri dans la notion de musique à l'image. Donc je m'occupais aussi des clients, etc. Enfin, ça restait quand même dans la publicité, ça restait quand même, bon, ça restait pour des belles marques, mais j'étais dans la musique, quoi, tu vois. Mmh. Et puis au bout d'un moment, à force de faire des remarques, du coup, ils m'ont dit, attends, mais t'as qu'à le faire. Donc j'avais un ordi à moi, j'étais le seul dans la boîte à avoir un ordi avec tous les plugins, avec Logic dedans et tout.
Logic qui est le logiciel.
Le logiciel de séquenceur musique de Apple. Et j'étais le seul à avoir le droit d'avoir un clavier, avoir pouvoir faire des prises de son et tout ça, machin, en dehors des séances de studio avec les ingés, quoi. Et du coup, bah moi, j'avais trouvé une espèce de compromis où je m'occupais des clients et en même temps, s'il y avait besoin que je mette ma patte et que je restructure un morceau ou que j'arrange le truc, hop, tout de suite, j'avais le droit de le faire. Donc ça les arrangeait bien aussi parce qu'ils avaient deux postes en un.
Toujours bien d'être
multicasquette. Moi, c'est un peu la mode de survie dans mon fonctionnement, quoi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Et en parallèle de ça, en fait, j'ai continué à faire de la musique solo et donc à commencer à faire de la musique au service des autres, c'est-à-dire à commencer à arranger et puis à composer et puis à enregistrer et puis à mettre en forme et puis à finalement faire de la réale, quoi, sans m'en rendre compte.
Et c'est qui les premiers artistes qui te font confiance comme ça?
La première, c'est Christine and the Queens.
Voilà, j'ai bien fait de te poser la question en fait, parce que
c'est la première.
T'allais pas le dire.
C'est les premières artistes.
T'allais pas le dire.
Non, je sais pas si.
Non, mais en fait, je pense
que c'est pas name dropping, mais en même temps, si c'est important dans l'histoire, avec joie d'en parler, quoi.
C'est pas anodin, quoi.
Non, c'est pas anodin, parce qu'en fait,
elle démarre,
elle vient de signer chez Because, elle fait son EP qui est juste avant l'album. Donc l'EP qui s'appelle Nuit 17 à 52. Et elle essaye avec plein de réals, ça marche pas. Finalement, moi, pareil, culot, je la rencontre à une soirée à un théâtre. Et je lui dis, tu bosses sur quoi? Elle me dit, Logic. Je fais, vas-y, ça te dit, j'essaye un truc, j'ai Logic aussi.
Ok.
Et elle me dit, mais t'as fait quoi déjà? Et tout, je fais, rien.
De la pub.
Mais la pub pour
des musiques
Bashkiri. Et en fait, elle me dit, ok. Un peu bon. De toute façon, elle a rien à perdre aussi. Je lui dis, mais de toute façon, c'est voilà. Fin...
Oui, tu lui fais comme
ça. Je fais, et puis tu verras si ça te parle et tout. Et puis elle me fait écouter les morceaux et tout. Et puis je lui dis, moi j'aimerais bien commencer par Loving Cup. Puis du coup, elle me file Loving Cup. Et puis là, moi j'avais pas de studio, donc j'étais dans mon home studio à la maison. Et elle vient à la maison. C'est la première fois que je reçois quelqu'un, une artiste comme ça, dans mon appart.
Génial.
Donc moi je suis un peu stressé quand même, parce que je me dis quand même, elle me file son bébé, c'est pas rien. Et elle écoute, elle se met donc devant la console, moi je suis derrière, je suis dans son dos, et je la vois, elle bouge pas. Je me dis putain, merde, ça lui fait rien, quoi. Et elle écoute, quoi. Et donc le morceau se finit, et puis elle se retourne, elle me dit, je peux le remettre? Je fais, oh, vas-y. Alors, mais là, je vois qu'elle bouge un peu et tout, machin. Elle ponctue un peu, tu vois, le morceau, les trucs qui se passent, les différents événements. Et moi, c'est une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. J'espère, si j'ai pas Alzheimer toute ma vie, c'est qu'elle se retourne et elle me dit, bah merci, c'est la première fois que j'entends ma musique, quoi.
Waouh.
Voilà. Et elle m'a dit un deuxième truc qui m'a marqué, c'est j'espère que mon projet va marcher, comme ça t'auras beaucoup d'artistes à produire. Et en fait, elle a ouvert la porte à la réal pour moi. Donc un grand merci. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, après dans les noms un peu qu'on peut connaître, il y a du coup Grand Corps Malade qui a écouté Christine et qui m'a appelé. Et puis après, il y a Giorgio qui a écouté Grand Corps Malade qui m'a appelé. Et après, c'était Eddie De Preto qui avait écouté Giorgio. Et voilà, on a bossé ensemble. C'est les grandes lignes un peu de ce que j'ai fait. Après, il y en a eu pas mal d'autres. Mais voilà.
Et comment tu fais pour passer de réaliser Christine and the Queens, qui est, je pense, de la musique un peu plus dansante, etc., ouais, à Grand Corps Malade, où, pour le coup... Là...
On se fait vraiment chier.
Non, j'adore Grand Corps Malade, vraiment. J'adore vraiment cet artiste.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même style, quoi, tu vois. Est-ce que
c'est pas
comment
le même style.
Ça se passe dans le boulot, ensemble, tu vois.
Avec Grand Corps.
Ouais.
Franchement, c'est une crème, moi, c'est un des mecs que je préfère dans la vie. Il est hyper inspirant, hyper sage, hyper généreux. Et en fait, très très vite, on s'est vite compris. C'est-à-dire que lui, je crois qu'il y a pas mal d'artistes qui m'appellent parce que pour ma patte, en fait, pour finalement pour ma musique, alors que c'est la leur, tu vois, évidemment. Mais du coup. Je sais pas comment dire, quoi. C'est y a pas de négo, encore moins avec Grand Corps. Enfin, franchement, même là, la dernière BO, la vie scolaire, il me dit bon, voilà.
Le mec passe comme ça en disant voilà, t'as aussi fait la BO des patients.
Patients
de
patients, la vie scolaire, ouais.
Et oui, bon voilà.
J'ai fait les deux derniers albums de Grand Corps et les deux films, ouais, les BO des deux films. Et pareil, il me dit bon bah tu regardes le film une fois, on te file un ours de 2 heures et puis tu vois quoi. Tu verras, il y a des trous. Donc c'est là. Donc il faut de la musique. Je suis ok.
C'est aussi simple que ça.
Et après je lui envoie la musique et il me dit ah bah c'est cool, il y a juste ça à bouger et basta quoi. Ouais, ça va.
Totale confiance.
Ah ouais, ouais, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait c'est marrant parce que du coup il me permet d'être artiste à cet endroit-là et de dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans. Et donc il y a les artistes comme ça, Giorgio c'est pareil, on bosse beaucoup comme ça à l'instinct, il me laisse faire et puis des fois il met du temps à digérer parce que c'est pas vraiment son truc. Finalement il écoute, il me dit putain c'est le meilleur morceau, donc ça c'est chouette quoi.
Okay.
Donc ouais j'ai de la place en tout cas, c'est cool.
Ce qui est marrant c'est que de ce fait là avec la BO de film, tu reviens à ton métier initial qui est de
carrément
refaire de la musique de pub.
Ouais, musique à l'image.
Sur de l'image quoi.
Ouais. Ouais, ouais, ben. En fait c'est ce que j'aime bien dire, c'est que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris à faire, aujourd'hui, je m'en sers. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression d'avoir des parcours un peu bizarres, un peu qui font pas de sens, un peu genre, ouais, bon, ça, c'était une période un peu bizarre de ma vie. J'ai fait une école de commerce, je sais pas trop pourquoi, ou j'ai fait Hippocagne, je sais pas trop pourquoi, mais en fait. Si tu prends vraiment le temps, tu vois, de regarder tes expériences, tu dis, ah bah, un peu comme les relations, quoi, tu vois, tu te dis, moi, j'aime pas me dire que je vais partir d'une relation ou quitter une relation sans savoir finalement pourquoi j'ai vécu cette relation et qu'est-ce que j'ai appris, etc. Parce que c'est précieux, en fait, c'est jamais pour rien, quoi. Et je crois que c'est ça, la notion d'équilibre, c'est quand t'arrives à utiliser toutes tes cartouches, tout ton bagage dans un certain contexte quand c'est adapté, au bon endroit, au bon moment et ça c'est riche quoi. Du coup moi j'ai aucun problème à passer 8 heures en séance de consultation en psy et le lendemain à faire du studio avec Georges voilà, enfin tu vois c'est
une bonne leçon ça je pense de vie pour tous les gens qui nous écoutent, les jeunes auditeurs aussi, auditrices, c'est que même une relation qui se passe mal en fait.
Ah mais surtout
même une rupture difficile ou
ou
si tu tombes sur une personne qui est toxique pour toi, etc.
Exactement. Ouais ouais. Mais Tu vois,
t'en tires un truc, quoi.
Bah, je dis depuis le début que la personne que je, enfin, en tout cas, ce que j'ai mis en place aujourd'hui dans ma vie est pratiquement à l'opposé de la façon dont je me comportais, et dont je pensais et dont je ressentais les choses à l'époque.
Mais à l'époque.
À l'époque, bah justement, enfance plus adolescence, voilà, jusqu'au switch à 26, 27 ans, quoi. Mais en fait, là, je suis hyper bien dans ma vie parce que, en fait, j'ai galéré avant, quoi. Je dis pas qu'il faut galérer ou qu'il faut souffrir, ça c'est vraiment un truc d'artiste, il faut souffrir pour faire de l'art. C'est pas vrai. C'est juste, tu feras des trucs un peu plus joyeux, c'est tout. mais je pense vraiment que la maturité, elle vient à partir du moment où tu arrives à regarder ton récit personnel. Et c'est cette capacité à changer notre passé, en fait, quoi. C'est de passer de « mon père m'a abandonné » à « mon père a fait ce qu'il a fait ». Et en fait, du coup, j'ai eu un autre père génial. Et en fait, du coup, j'ai deux pères. Et donc, c'est super. Tu vois, c'est vraiment cette capacité à... La résilience, pour moi, c'est ça aussi, tu vois. C'est cette capacité à transformer notre propre histoire... Et de voir ce qu'on a appris ou en fait on affine nos goûts, on affine nos choix au fur et à mesure. Ah bah tiens, cette relation était merdique, je sais que je veux plus ça. Au pire, ça t'a appris ça, quoi. Donc en tout cas c'est comme ça que j'aime bien réfléchir à ce que j'ai vécu, quoi.
Comment t'en viens à devenir thérapeute? Parce que tu t'as dit un truc intéressant au tout début, c'est que t'as dit que t'es dans l'accompagnement.
Ouais.
Donc le lien, je le vois à ce niveau-là, mais pour le coup, c'est pas du tout le même métier.
Tu sais, il faut vraiment être psy pour bosser avec des artistes.
Je suis assez...
Non, mais c'est con, mais j'utilise du coup toutes les formations que j'ai eues en thérapie dans mon travail en tant que DA. Donc en fait, ce qui rentre dans le micro au moment où tu enregistres l'artiste, c'est pas du tout la même chose que si t'as pas du tout ces notions-là, et que je lui dis vas-y, chante, fais ton truc, machin, tu vois. Alors après, évidemment, c'est pas comme ça, mais moi, je sais que par exemple, en DA, je passe énormément de temps à discuter avec la personne, à comprendre comment elle fonctionne, à la laisser faire aussi, à la laisser faire, entre guillemets, ses erreurs, c'est-à-dire, tu veux ça, c'est quoi, vas-y, fais-le, va au bout de l'idée, peut-être que ça va te plaire, si ça te plaît, de toute façon, c'est ton projet, c'est ok. Et si tu te rends compte au bout de deux jours qu'il faut faire vous revenir à la V2, on reviendra à la V2. Mais je pense que c'est un cheminement. Donc c'est en ça qu'accompagner quelqu'un dans son propre cheminement, que ce soit une expression artistique ou une expression physique ou orale dans une séance de consultation, pour moi c'est la même chose, en fait. J'en suis venu à faire de la thérapie parce que j'ai moi-même eu des enseignements et des thérapeutes et des coachs qui m'ont permis de vraiment changer mon regard sur le monde. Et c'est pas eux qui ont changé ma vie, ils m'ont permis de changer ma vie, mais c'était impossible pour moi de lâcher ça. C'est-à-dire que je suis toujours en thérapie, évidemment, je suis toujours suivi par plusieurs personnes et en supervision d'autant plus quand t'es thérapeute, mais je me suis dit mais attends, si ça m'a fait ça, c'est qu'il y a un boulevard de trucs déjà que, un, je connais pas, qu'on m'a jamais appris, ni à l'école, ni mes parents, même mes parents sont pas au courant. Et deux, putain, mais si ça m'a fait ça à moi, ça veut dire que ça peut faire à d'autres gens, quoi. Et du coup, en fait, très très vite, j'ai demandé à certains de mes thérapeutes de m'apprendre. Donc je suis même pas allé à l'école au départ, je leur ai dit, mais est-ce que tu peux m'apprendre? Et donc j'ai appris auprès de personnes que j'appelle des maîtres aujourd'hui maintenant, notamment la notion d'énergie, de travail sur l'énergie, le corps, etc. C'est que j'ai commencé par le corps. Et puis, au bout d'un moment, moi, je suis formé en Reiki, je suis formé en énergétique chinoise et puis en soins biodynamiques. Donc, c'est vraiment que toucher. C'est comme l'ostéopathie biodynamique, mais sauf que tu manipules pas, tu poses juste les mains. Et puis, je me suis, j'ai été pendant 2-3 ans comme ça, tous les week-ends au cabinet pour être formé sur la théorie quantique, sur ce que c'est, comment fonctionne le cerveau, l'anatomie, tout comme ça. Et finalement, j'ai été un petit peu son assistant, quoi, sur certaines séances où on faisait des quatre mains. Et j'ai découvert que j'avais beaucoup d'intuition, comme beaucoup de gens. Enfin, je pense comme tout le monde, mais c'est juste qu'il faut l'accepter. Et des fois, ça fait pas forcément sens sur le moment. Mais si tu t'autorises à l'exprimer, ben peut-être que il se passe des trucs, quoi. Et un jour, on est en train de faire un quatre mains. Un soir, ils me disent, on le fait les soirs parce que ça va être un peu particulier comme séance. Et la personne ne venait pas pour un truc physique. Elle venait pour un truc émotionnel. Et donc, on pose les mains et tout ça. On fait notre truc. Et là, à la fin de la séance, c'est la première fois qu'il me dit, alors Angelo, c'est quoi ton diagnostic? Je pense qu'il savait que j'avais cette intuition-là qui était là. Et je dis, désolé, mais j'ai ressenti des trucs, mais c'est pas du tout de l'ordre de la logique. Enfin, c'est pas, ça fait pas vraiment... Et il me dit, vas-y, qu'est-ce que t'as ressenti? Je fais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un conflit avec sa maman. Juste en mettant les mains, tu vois. Et là, elle se met à pleurer. Enfin, la patiente se met à vraiment... elle me dit, mais oui, c'est ça. Un truc comme ça. Et je me dis, ok, super, merci, machin. Donc, du coup, voilà. Et il m'a dit, c'est chouette parce que t'as des infos que j'ai pas. Moi, j'ai certaines infos. Et, parce que lui, il est quand même médecin et tout ça. Donc, il sent la matière, quoi, si tu veux. Et moi, je sens l'invisible, enfin, la non-matière, quoi, tu vois. Et du coup, on a fait plusieurs séances comme ça. Je commençais à recevoir du monde chez moi, tout seul. Et puis, je me rendais compte que l'échange, donc ce qu'on appelle l'anamnèse, quand la personne vient et qu'elle expose sa problématique, était de plus en plus long. Et puis, je me rendais compte que quand c'était un peu plus long, déjà, il y a des trucs qui se résolvaient. Et puis, du coup, je me suis dit, mais attends, il se passe quoi quand juste on parle comme ça ou quand... Et donc, du coup, après, naturellement, je suis allé plutôt vers la psy. Et donc là, c'était plutôt école jungienne. Parce que pour moi c'est vraiment l'endroit qui mélange la magie, qui mélange le non visible, qui mélange les médecines orientales et en même temps tout l'héritage de Freud, Ferenczi, tous les pontes de cette époque-là en psychanalyse. Et voilà. Et après je me suis intéressé à la psychogénéalogie parce que c'était un sujet pour moi d'aller creuser dans mon arbre.
Tu peux redire la psychogénéalogie?
Psychogénéalogie, c'est de l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire que il se peut qu'il y ait des problématiques, évidemment, quand on travaille sur le conditionnement et sur la construction de la personnalité. Souvent, on va travailler sur soi. On dit moi je travaille sur moi. Ouais, mais enfin toi, t'es quand même la somme de tous les trucs qu'il y a au-dessus, quoi. Et donc on va aller voir du coup quels sont les héritages, quels ont été les contextes familiaux, dans quel contexte la personne a été conçue, dans quel contexte elle a vécu la gestation, etc. Et puis après on peut remonter. Le transgé, ça commence à partir de la quatrième génération au-dessus de nous, donc faut au moins que ce soit les arrière-grands-parents pour qu'on soit dans quelque chose de transgénérationnel. Et voilà. Et puis il se trouve que comment se manifeste l'arrière-grand-mère qui a été violée à la guerre, machin, c'est devenu quoi en fait ce trauma? Comment sa fille, comment ses enfants ont hérité de ça, et voilà. Et parfois, en fait, tu te rends compte que une nana qui vient et qui a l'impression de s'être fait violer, mais qui croit qu'elle s'en rappelle pas parce qu'elle a des, j'en sais rien, parce qu'elle a des, je sais pas, des problèmes au niveau du utérus, au niveau gynécologique, etc. Tu te rends compte, en fait, c'est l'arrière-grand-mère, c'est les symptômes de l'arrière-grand-mère, en fait, quoi, tu vois. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que on va souvent aller voir le symptôme, alors qu'en fait, si tu vas vraiment à la source, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses dont on hérite. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Hein. La personne peut aussi très bien avoir un problème à elle,
bien sûr, qui
est de cet ordre-là. Mais
ok.
Voilà.
Parlons de balance tapeur.
Ouais.
Parce que je pense que tu disais aujourd'hui que c'était plutôt, on te contactait plutôt pour ça.
Oui. Tu sais, j'ai été, alors juste pour l'anecdote, j'accompagne des artistes au Franco de La Rochelle. Donc, il y a le chantier des Franco qui est un système d'accompagnement où tous les mois, pendant une semaine, il y a une sélection d'artistes qui viennent pour se faire accompagner justement par des DA, des coachs, des profs de chant, etc. Et je me balade à La Rochelle, donc en plein festival, je me dis, c'est quand même le festival de la musique, le truc est connu pour ça. Je prends un Vélib, et là, il y a une nana qui m'arrive, qui me dit, hey, mais t'es Angelo Follet. Je me dis, ah ouais, cool, on va parler de musique, quoi, tu vois, on est au festival, j'ai des artistes que j'accompagne qui sont là, et elle me dit, ah, c'est toi, Blanc Stapper. Je fais, ah oui, oui. Et pareil pour les Solidays, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Je suis au Solidays, je suis quand même dans un univers de la musique et en fait, on me reconnaît parce que Balance Tapper. Donc c'est effectivement ça, c'est quelque chose qui me dépasse, quoi.
Ok.
Ouais.
Et en même temps.
Dans le métro, pareil.
Où mais... t'es beaucoup plus. Alors pas visible parce qu'en fait tu te montres très très peu sur le compte.
Sur le compte en tout cas, ouais.
Parce que t'as aussi lancé un podcast, on en reparlera un petit peu. Mais là, je pense que de ce fait-là, les gens ils te reconnaissent par là, quoi.
Sur le podcast, bah ils me reconnaissent ma voix, tu crois?
Ils ont ton nom. Tu tapes sur internet.
Bah. Oui, après, je pense que j'imagine que sur les abonnés qu'il y a, effectivement, certains ont peut-être un peu creusé, certains me suivent aussi du coup sur mon compte perso, certains ont connu Balance Tapper parce qu'ils connaissaient Giorgio ou parce qu'ils connaissaient le projet, voilà. Donc, tout ça se mélange un petit peu, quoi, effectivement.
Qu'est-ce qui te donne envie de lancer ce compte? Donc, pour expliquer un petit peu le concept du compte, c'est tu viens... vas-y, je te laisse faire en fait.
J'allais dire, il va essayer.
J'ai tenté 3 secondes de le pitcher, j'ai fait trop compliqué, vas-y.
Le pitch, il est assez simple en fait. C'est un espace de dépôt, déjà, où chaque abonné a l'opportunité de déposer ses peurs par écrit.
C'est marrant que tu dises dépôt.
Ouais.
J'aurais dit partage, mais tu vois.
Et bah, partage, c'est moi qui le fais.
Ah oui.
Lui, il dépose et moi, je partage après.
Ah, ok.
Et du coup, il dépose sa peur. Et puis, bah, moi, après, si ça me parle, si ça m'inspire, si je me reconnais, etc., je vais en faire un post en ne répondant pas directement à la personne parce que je ne suis pas son thérapeute. Mais par contre, je vais poser, partager une réflexion autour du thème, voire étendre le thème à un peu plus loin que le sujet qui a été évoqué. Et apparemment, bah, ça, pas mal de gens se reconnaissent, quoi, donc...
Qu'est-ce qui te donne envie à l'époque de lancer ce compte et de te dire, ok, les peurs, c'est un vrai truc, il faut qu'on ait une discussion autour de ça sur les réseaux?
Il y a deux angles. Le premier angle, c'est que j'ai énormément étudié les peurs en thérapie et en coaching et en stage de groupe et en rite. J'ai fait énormément d'ateliers liés à la peur. Et je me suis rendu compte à quel point ça, c'était un mécanisme plus qu'une émotion, souvent, qui empêchait énormément de choses d'être ce qu'elles sont, et donc aussi de passer à l'action, qui nous amène souvent à faire des trucs complètement à l'opposé de ce qu'on voulait faire, ou dire. Et donc il y a déjà ça, donc je m'en suis rendu compte par moi-même en expérimentant toutes les peurs, etc., en groupe en plus. Et puis il y avait aussi l'observation de certains comptes émergents sur lesquels on pouvait constater qu'il y avait quand même une envie de bien faire, une envie d'apporter quelque chose, une envie d'apporter une réflexion et de transformer un peu Instagram en autre chose que de l'image pure, voilà. Et c'est Instagram aujourd'hui, c'est un endroit sur lequel on peut réfléchir sur soi et je trouve ça génial. Et en fait, souvent je suivais, je regardais les commentaires, je regardais les réactions, etc. Je me suis dit, putain, mais même avec toute la meilleure bonne intention du monde, il y a des conflits. Et très très vite, en fait, j'ai réalisé, j'ai fait le pont, je me suis dit, mais attends, de quoi ces personnes ont peur pour se défendre à ce point? Pour attaquer à ce point, pour juger à ce point, alors on vit dans un monde de jugement et c'est un petit peu le premier truc qu'on apprend à l'école, c'est de donner notre avis, de parler avec je, etc. Mais là, en l'occurrence, je trouvais qu'il y avait un vrai souci et je me suis dit, j'ai besoin qu'il y ait un truc qui parle de la base, du truc, le degré zéro, du zéro, quoi, tu vois. Et voilà, et en fait, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un truc sur les peurs, en fait, parce qu'à partir du moment où on travaille sur ces peurs, déjà, ça soulage énormément de choses, quoi, tu vois. Quand tu attaques quelqu'un, si tu te dis, ah bah tiens, de quoi j'ai peur au moment où je me sens attaqué moi-même et que j'attaque moi-même, c'est plus pareil. Voilà. Et donc, en fait, c'est un pote qui m'a soufflé le nom Balance Tapper, parce que je lui avais dit MeToo, parce que j'avais envie de le revoir. J'avais dit, ah, ça me ferait plaisir de te revoir, et je sais plus, il m'avait dit ça, et j'avais dit MeToo, et il m'avait dit, ouais, Balance Tapper, machin, enfin, je sais plus, c'était une conversation comme ça. Et au final, voilà, je me suis dit, ah bah c'est ça le nom, quoi. Donc j'ai commencé par le premier post, c'est mes peurs, en fait.
Et qu'est-ce que donc ça fait un peu plus d'un an maintenant.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en retires toi avec le recul d'un an là maintenant.
Je retire beaucoup de comment dire. Ce que j'observe en tout cas, c'est que l'être humain a plus de points communs que de différences, ça c'est sûr, et que ils ont beau être, je sais plus combien d'abonnés, ben en fait, tout le monde parle des mêmes choses. Et en fait, c'est intéressant pour moi parce que d'avoir fait ce compte, ça m'a donné envie d'écrire le livre. Donc je suis en train d'écrire le livre. Et au final, je me rends compte que en écrivant le livre, plus en recevant au fur et à mesure les posts et les témoignages, en fait, on parle que d'amour, quoi. Et la peur et l'amour sont très, très... très très lié quoi, indirectement.
Dans quel sens?
Bah, dans le sens où en fait la peur est souvent liée à l'absence d'amour quoi. Alors que l'amour inclut la peur puisque l'amour elle comprend tout. Donc je me suis rendu compte qu'au final plus on parlait de peur plus on parlait d'amour et ça s'affinait de plus en plus vers finalement la peur et l'amour quoi. Et du coup ce que j'observe, en fait, c'est ça, c'est que au fur et à mesure, les témoignages s'affinent de plus en plus et parlent de plus en plus de les peurs liées à l'amour, donc dans la relation, dans la famille, l'amour de soi, voilà. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est lié à la relation, qui est lié à notre condition d'animal social. Enfin, j'ai eu très peu de phobies, tu vois, ce qui est pas une peur, mais la phobie c'est pas la peur, mais j'ai eu très peu de trucs, j'ai eu quelques trucs de genre j'ai peur de vomir ou j'ai peur du vide, voilà, mais le vide tu te raccroches toujours à la vie, la mort, tu te raccroches toujours à des grandes notions comme l'amour. J'ai peur de m'attacher ou j'ai peur d'être en couple, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté, et en fait tout ça c'est vraiment le même matériau quoi, tu vois. Donc, c'est en train de se transformer en balance ton amour. C'est drôle parce que j'avais hésité avec ça. Et puis, je me suis dit, non, on va parler d'abord du truc qui fait chier tout le monde, quoi. Et puis, on se rendra compte petit à petit.
Oui, c'est un peu plus facile de faire balance ton amour que balance ta peur.
Oui, oui. Puis, c'était moins proche de balance ton porc. Donc, ça me faisait marrer aussi que ça soit dans les mêmes sonorités.
Tu as aussi lancé un podcast.
Ouais.
Où tu reçois des invités pour faire des versions, on va dire, un peu étendues, c'est ça et,
oui,
et
c'est comme un post étendu. C'est ça, c'est-à-dire que j'étais frustré très très vite de la limite de... Enfin, tu vois, quand t'écris le post, t'es limité à un certain nombre de caractères. Voilà, l'espace, il est limité. Et donc, je me suis dit, putain, mais j'ai envie de prendre du temps parce qu'en fait, on fait que effleurer certains sujets ou alors... Je rentre dans le cœur du sujet direct, mais du coup, on comprend pas forcément parce que il y a pas le contexte. Donc ouais, je me suis vraiment fait kiffer. J'ai un studio, je fais de la musique, donc je sais faire des prises de son. Enfin, tout est très indépendant et autonome. Donc, je me suis dit, je vais inviter des gens et je vais vraiment prendre le temps parce que c'est aussi ça ma démarche, c'est que je fais des textes souvent longs pour que les gens s'arrêtent. Et j'adore cette contradiction entre les réseaux sociaux, Insta hyper rapide où tu swipes machin, et le truc où en fait t'es obligé de rester au moins 5-10 minutes pour lire, puis relire, puis re-relire et comprendre. Et pareil pour le podcast, tu vois, c'est quand même des longs épisodes de 3 quarts d'heure, 1 heure.
Et ce qui est marrant, c'est que tu raccroches avec le podcast.
Ouais.
À ton métier initial, déjà parce que tu mets de la voix,
ouais.
C'est hyper, ça donne une toute autre dimension que juste du texte en fait que tu lis toi avec ta voix quand t'es sur Insta quoi. Et puis tu viens chanter, enfin il y a toujours un,
il y a de la musique,
un moment musical fin, c'est marrant.
Ça m'a fait kiffer. En fait c'est un endroit le podcast où je fais tout ce que j'aime, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui m'a énormément inspiré pour le format du podcast, c'est Esther Perel. Qui est une grande thérapeute et sexo américaine, enfin elle est européenne mais elle est américaine maintenant.
Ah oui, je vais mettre les liens pour aller voir notamment son fameux TED sur l'infidélité.
C'est Je t'aime, je te trompe, son livre, entre autres. ou sur le désir. Enfin, c'est hyper intéressant. Et j'ai eu la chance de la rencontrer par Greg qui me l'a présenté. Donc, on a vachement discuté. Et
Grégory Pouy, donc.
Grégory Pouy, pardon, ouais.
Qui a ce podcast qui s'appelle Vlan.
Vlan, ouais, voilà. C'est ça. Et du coup, bon, on est tous un même groupe de potes avec ouais. Maï et tout, enfin, Maï UA. Mm. Et du coup, bref, j'ai adoré son concept de podcast aussi qui s'appelle Where Should We Begin. Et en fait, elle reçoit en thérapie de couple, un couple. Et on rentre comme une petite souris dans l'espace d'un couple en thérapie. Et je me suis dit, putain, mais j'ai trop envie de faire un truc qui ressemble à de la thérapie, enfin, qui ressemble à une séance, mais qui est. Voilà. Et du coup, en fait, effectivement, j'ai pas exactement la même posture parce que je suis pas en thérapie quand je reçois quelqu'un, mais par contre, effectivement, il y a énormément d'espace à la personne, c'est elle qui parle le plus. Je pose quelques questions ouvertes et il y a vraiment la même intimité que dans mon cabinet. Ça, c'est cool. Pour pouvoir justement laisser émerger aussi des trucs un peu plus profonds de la personne. Donc ça, c'est mon kiff. Et l'autre kiff, c'est qu'effectivement, je mets toujours un peu de musique. J'écoute l'épisode et je fais une musique qui m'inspire, qui m'a inspiré l'épisode, quoi. Ou alors, je fais comme avec Marion Seclin, un morceau. J'ai fait chanter. Voilà, quand la personne fait de la musique, on se fait plaisir tous les deux et on fait un duo.
C'est chouette.
Ouais, ouais.
Non, vraiment.
Bah, merci.
Donc tu disais que tu avais un projet de bouquin.
Ouais, ouais. Je suis à la fin là. Hein. Je suis à la dernière ligne droite. Il faut que je le livre début janvier. J'ai déjà repoussé d'un mois. Désolé Olivier, c'est mon éditeur.
Et Olivier Morera, donc qui est chez Albin, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Bah, qui édite aussi chez Mademoiselle les cahiers de vacances. Tu sais, on a un cahier de vacances tous les ans. Ouais. On a monté ça. Et
cool.
qui est aussi l'éditeur de...
De Morgan de Martin, Morgan. Ouais, d'Amour solitaire. Donc on est, ouais, pareil, une petite famille de
il
gens.
Est dans le game d'Insta, Olivier.
Il est dans le game d'Insta. Il m'a chopé un jour. J'ai fait une story en plein été en disant... J'ai écrit un bouquin sur Balance Tapeur et il m'a dit « Youhou tu veux, je peux t'accompagner sur la version longue si tu veux. »
C'est cool.
Et c'était le premier. Et c'est le premier avec qui je me suis bien entendu. Mmh. Après, il y a eu d'autres propositions, mais j'ai... Voilà, j'ai fait d'instinct, j'avais envie que ce soit lui. Et donc, ouais, la chance d'être chez Albin Michel et de faire un premier bouquin chez eux. Et donc, là, je suis à la fin du processus créatif, en tout cas. Après, il y aura toute la mise en page, les illustrations, le machin.
Ça sort.
C'est prévu normalement pour la rentrée de littéraire de septembre.
Okay.
Quoi. Ouais. Donc, on va se donner six gros mois après pour travailler dessus, l'affiner. Okay. Voilà.
Oh, cool.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres projets? Tu fais de la musique encore?
Je fais toujours de la musique, un jour sur deux en fait.
Ah ouais.
Donc je suis au studio et je continue à produire. Bah là, je fais le quatrième album de Giorgio. Je suis avec un duo qui s'appelle Komorebi, qui est un duo de nanas. Elles ont pris des mots, tu sais, qui sont pas forcément traduisibles dans d'autres langues, comme des mots japonais, islandais, suédois, etc. Et elles ont pris ces mots-là, elles en ont fait des morceaux en les illustrant sur scène avec des images et en écrivant des paroles et de la musique. Et donc, on s'est rencontrés et on a fait un premier morceau ensemble et voilà, on va continuer à bosser ensemble là-dessus. Et puis, je fais la BO d'un cours d'une pote qui s'appelle Elodie Wallace. Et voilà, c'est un sujet qui me parle. Et donc, en fait, je fais que des projets de cœur, là.
Trop bien.
J'ai arrêté de me faire chier. Non, pas qu'avant, c'était chiant, mais je veux dire...
Non, t'as décidé d'aller
voilà.
vers...
Je me suis dit, tiens, ça me fait kiffer, je le fais, quoi.
34 ans, c'est pas mal, non? Non, à 34 ans, c'est pas mal d'être arrivé à ce stade où t'es capable de faire que des trucs de projet de cœur.
Ouais, ouais. Bon, après, faudra voir avec Timothée, mon manager, si ça rapporte assez d'argent. Mais en tout cas, je suis sur un bouquin, je fais des consultes, je gagne ma vie. Enfin, ça va. Je pense qu'il y a un endroit où, ouais, c'est important de aussi retrouver de la joie dans ce qu'on fait.
Merci beaucoup, Angelo.
Bah, merci.
C'était trop bien.
Cool.
J'ai appris plein de choses sur toi.
Bah ouais,
et puis plein de choses d'une manière générale. Je mettrai tous les liens sur Insta,
ouais,
dans les notes de ce podcast pour que vous puissiez suivre le travail d'Angelo, ton site, ton. Bref, tout ça.
Ouais. La matière, le matos.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut.
Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.